Donc Jonas chapitre 1, je vais lire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, et ils implorèrent chacun leur Dieu, et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas, descendu au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Mais pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre : « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit : « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit : « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : « Oh, Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. On va étudier ce livre de Jonas qui est extrêmement riche pour notre vie chrétienne. Hein, et moi, j'affectionne beaucoup ce livre. Mais avant, j'ai eu une mission pour vous. Je ne vais pas dire de la part de Dieu parce que ce n'est pas vrai. Mais j'ai imaginé que la même chose, la même mission nous était adressée aujourd'hui, dans notre contexte. Et donc, voilà ce que j'ai reçu pour vous hein, et pour moi. Mais... Donc Jésus-Christ s'adresse à nous, hein, chère assemblée d'Étrichy. C'est qui ? C'est vous ? Ouais. Je suis heureux de l'amour fraternel qui règne dans votre église. Vos activités vont bon train et les agapes sont copieuses. On verra ça tout à l'heure. Bravo. Vous êtes d'authentiques serviteurs de Dieu. Puisque je m'adresse à des serviteurs fidèles, je souhaiterais vous confier une mission. D'abord, êtes-vous d'accord avec ma parole ? Avec la Bible ?
Amen.
Ouais. Et la Bible dit, hein, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Hein, c'est dans Marc. Puis un autre passage dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est dans Timothée. Alors si vous êtes d'accord avec ces versets, je ne dirais pas si oui, vite si oui. Hein, alors si vous êtes d'accord avec ces versets, vous allez dire oui. Hein, je vais vous demander de laisser votre travail un temps et de quitter votre pays, votre famille et vos amis pour un long voyage. J'entends déjà moins oui. Hein. Oui, parce que j'ai un projet d'évangélisation et à cause de ma grande compassion à l'égard du pêcheur, je souhaiterais vous amener en Corée du Nord. Ça calme là d'un coup. Hein. Une fois là-bas, cherchez les dirigeants, criez-leur pour leur méchanceté, que leur méchanceté est montée aux oreilles de Dieu. Hein. Faites ainsi le tour du pays et une fois fini, vous pouvez rentrer chez vous, votre mission sera accompli. Alors la question, acceptez-vous la mission ? Je vais prendre les noms. C'est exactement la mission qu'avait Jonas. C'est exactement ça. Je fais exprès de le mettre dans notre situation parce qu'on ne connaît pas un peu le contexte de Jonas, on va en parler. Mais Jonas a eu exactement la même mission et souvent on le critique en disant qu'il aurait pu servir Dieu, etc. Vous n'êtes pas plus prêt à y aller. Bon, lui était prophète. Bon, c'est une chose, mais c'était aussi un homme comme n'importe qui d'entre nous. Et Dieu a voulu mettre Jonas, son serviteur, au travail. Et c'est pas toujours un travail qui est facile. Dieu ne demande pas toujours des choses forcément faciles. Je sais qu'il ne demande pas à tout le monde la même chose. Donc, Jonas était Jonas, moi je suis moi, etc., etc. Mais il nous donne du travail. Est-ce qu'on est prêt à dire oui ? Parce que généralement, on dit plutôt non. C'est systématique. Souvent, quand Dieu veut nous mettre à l'œuvre, quand il voulait m'envoyer à l'Institut biblique au départ, j'ai dit non. Moi, j'étais bien, j'avais de l'argent, t'es chef, voilà, c'était super, la vie était belle. C'était dans le sud, hein. Je sais pas si vous comparez Arles, Marseille et Thionville, il y a un petit contraste, hein. Ça donne pas forcément envie. Mais souvent, nous disons non. Mais quand nous disons non, Dieu va trouver un moyen pour qu'on arrive à dire oui à un moment. Il m'a cassé mon dos. Ça, c'est mon témoignage. Hein. Hernie discale et compagnie, je pouvais plus travailler. Donc, à un moment, comme Jonas, on va le voir au fur et à mesure, là où souvent nous disons non, et Dieu nous laisse cette liberté, je pense, à un moment, il trouvera quand même le moyen de nous rattraper. Donc j'aimerais qu'on parle un peu de ce Jonas aujourd'hui qui, pour moi, il dit non pendant le chapitre 1. Et moi, j'aimerais qu'on apprenne plutôt à dire oui au Seigneur. Et on va voir un peu au travers de Jonas, de sa vie, hein, comment il a refusé en fait de cette compassion que Dieu avait pour le pécheur. Ensuite, qu'il a refusé d'obéir à Dieu, il a refusé de se repentir, il a refusé de changer d'attitude. C'est pas vraiment un témoignage. Hein. Mais bon. Donc non, premièrement, à la compassion. Bon, je vais expliquer pourquoi. Ou quelque part, Jonas va refuser tout simplement la compassion que Dieu a pour les Ninivites. Hein, il refuse. Alors juste pour le présenter rapidement, hein, Jonas est né à Gath-Hépher. J'espère que ça va marcher. Voilà, donc c'est pour vous situer, hein, c'est ici. Il est né là-bas, il est le cinquième des prophètes qui prophétisa sous le roi Jéroboam II. Je ne sais pas si vous arrivez à peu près à caler ça dans l'histoire, mais bon. On le voit par exemple en 2 rois 14-25, où il parle à Jéroboam qui devait rétablir les limites d'Israël. Son père s'appelait Amitaï, on ne sait pas plus, ça signifie véridique et sincère. C'est marrant le contraste entre le papa qui avait quelque chose vraiment positif et Jonas qui agit différemment. Jonas signifie colombe, c'est très joli, hein, si vous voulez appeler votre enfant comme ça. Enfin bon. Et on est à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ, le récit à peu près à ce moment-là. Jonas devait aller à Ninive. Donc on peut connaître cette ville, hein, on pense qu'elle est attribuée, enfin la construction de cette ville est attribuée à Assur, et ça commence en Genèse. Donc c'est une vieille ville qui existe là. La capitale c'est l'Assyrie, hein, et cette ville était dédiée en fait à la déesse Ishtar. Ceux que ça intéresse. On voit à la fin de Jonas qu'il y avait environ 120 000 hommes dans cette ville, et donc il faut multiplier par les enfants, les femmes, etc. Et certains pensent qu'il y avait environ 600 000 personnes dans cette ville, que Dieu allait juger. C'est ce qu'il était en train de dire. La taille de la ville, on voit que Jonas a mis 3 jours de marche pour faire le tour de la ville, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça fait comme circonférence, mais c'est quand même une grande ville. Si vous regardez un peu plus loin dans la Bible, on verra que 100 ans après leur repentance, ben malgré tout, les Ninivites vont se remettre à pécher et à désobéir à Dieu. Et finalement, dans le livre de Nahum, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Nahum, peut-être qu'on aura l'occasion de l'étudier, et bien finalement, cette fois, la ville de Ninive sera détruite une fois pour toutes. Mais en attendant, Dieu appelle à la repentance. Alors Ninive, elle n'a pas une bonne réputation, elle est réputée pour ses guerres, et tout particulièrement pour sa cruauté. Hein. On parle dans Nahum, on parle d'une ville sanguinaire. On parlera un petit peu de comment il faisait à l'époque. Donc voilà, Jonas et puis cette ville. Ça donne envie d'y aller ? Faire du tourisme ? Non, ça donne vraiment pas envie. Et encore là, on ne sait pas tout. Hein. Mais Dieu donne une mission à Jonas. Et une fois qu'il a donné la mission, qu'est-ce que fait Jonas ? Oui, Seigneur, je suis prêt à partir, je vais t'obéir. Il se lève et il se barre. Excusez-moi le terme, mais c'est exactement ça. Je fais dans le contexte aujourd'hui. Hein. Mais en même temps, il devait quitter son pays, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous. Il devait faire environ 200 km à pied pour aller rejoindre cette ville de Ninive et se retrouver dans cette ville sanguinaire, terrible, etc. Et annoncer, ben, Dieu va vous juger bientôt. Bon, on peut comprendre qu'à un moment, il a quand même hésité. Hein. Moi aussi, je crois que j'aurais hésité. Il doit avertir Ninive d'un jugement. C'était encore juste pour aller voir le roi, lui dire « Bonjour, tu sais, Dieu existe. » Mais il doit en plus les avertir que Dieu va détruire la ville. Allez dire ça à un président, au président de Corée, là. Dieu va venir vous détruire. Ils font des essais nucléaires en ce moment, d'après ce que j'ai compris. Alors, il ne faut peut-être pas trop le dire. Hein, vous allez balancer les... Enfin bon, bref. Mais voilà la mission. Hein, et il doit avertir que leur méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Pas évident quand on y pense, hein, la mission. Et l'objectif, c'était pas seulement d'avertir, mais derrière, Dieu avait de la compassion. C'est ça qu'il n'a pas vu Jonas, peut-être. Il voulait que les Ninivites, en entendant le jugement qui allait tomber sur eux, se convertissent ou changent d'attitude, tout simplement. Et ils vont le faire, en plus. Hein. Et donc, Dieu envoie son prophète pour condamner une ville, mais en même temps, derrière, il y avait tout plein de compassion et d'amour pour ces gens-là. Il ne veut pas les détruire, mais leur demande de changer tout simplement d'attitude. Et quand on voit ce que fait Dieu là au travers de la mission, en fait, Dieu aime tous les hommes, quels qu'ils soient. Et tout à l'heure, j'avais entendu ça de la part de Bruno Zé. On peut être le pire des hommes, mais Dieu peut faire quelque chose pour nous et veut faire quelque chose pour nous. Alors, on regarde souvent les gens bien en se disant « Ah, peut-être ces gens vont se convertir, mais peut-être les pires des brigands ou je ne sais pas quoi aujourd'hui, Daesh, pourquoi pas, et il y en a, ils se sont convertis. » Donc, quand Dieu nous envoie dans une mission, il faut peut-être réfléchir à pourquoi il m'envoie. C'est vrai, on voit ce qui risque de nous arriver, mais on ne voit pas la motivation de Dieu derrière. Et lui, c'était plein de compassion. Dieu désire, nous dit Timothée, sauver tous les hommes. Pas les gentils, pas les biens, ou les riches, ou je ne sais pas. Tous les hommes, quels qu'ils soient, dans l'attitude où il est, on se souvient de ce brigand à la croix qui est en train de mourir à côté de Jésus, ce n'était pas quelqu'un d'honorable, hein, et pourtant Dieu l'a accepté dans son paradis. Dieu donne une chance à tout le monde. Formidable, hein ? Alors, nous, on n'était pas des grands méchants, mais pour celui qui est un grand méchant aujourd'hui, un jour, Dieu va peut-être l'approcher au travers de vous, qui sait, vous aurez peut-être cette mission, vous lui parlez du Seigneur et peut-être qu'il changera d'attitude. Mais le problème de Jonas, c'est qu'il n'avait pas compris dans cette mission la compassion et la miséricorde de Dieu à l'égard du pécheur. Et en même temps, il aurait dû s'identifier tout simplement avec Dieu. Il aurait dû mieux connaître Dieu. Hein. S'il connaît Dieu, il sait que Dieu est plein de compassion, il ne punit pas juste pour punir, pour plaisir. Il y a toujours quelque chose derrière. Mais lui a refusé cette compassion, on verra aussi pourquoi. Alors si lui a dit non, ben nous peut-être on peut dire oui. Oui, à transmettre le message de compassion de Dieu pour les pécheurs. Et celui qui vous aborde, même s'il n'est pas respectable, ben rien ne nous empêche, si Dieu le permet, ben de lui annoncer l'évangile. Et qui sait ? Si moi on ne m'avait pas approché, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Dieu a permis de changer ma vie. Je ne suis pas le pire non plus, mais quand même. Et chacun d'entre nous, Dieu s'est approché tel que nous étions à ce moment-là. Il n'a pas approché des gens parfaits, sans péché, gentils, etc. Il a approché des pécheurs, comme c'est Ninivite là. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est que Jonas dit non à la mission de Dieu. Il refuse catégoriquement d'obéir. Alors, on peut se poser la question pourquoi, hein. Alors, c'est des suppositions, ben, peut-être la peur. Hein, tout à l'heure, quand je vous ai demandé d'aller en Corée du Nord, la première chose qui vous venait à l'idée, c'est certainement la peur. C'est pas parce que j'ai pas le temps ou parce que je dois aller travailler demain. C'est la peur. Et surtout qu'à ce moment-là, en Israël, c'était un temps de paix, donc il fallait pas déranger monsieur le prophète. Hein. Il était bien tranquille après des années de guerre, etc. Pour une fois qu'il y a la paix, m'envoyez pas là où il y a la guerre. Arrêtez. Enfin, j'imagine. Mais peut-être, comme je disais, ils connaissaient la cruauté des Ninivites. Hein, et juste une bribe de leur façon d'agir. Hein. Les Assyriens coupaient la tête de leurs victimes avec après d'innombrables sévices. Puis ils empilaient les têtes en forme de pyramide à l'entrée de la ville qu'ils voulaient assiéger. Parmi les corps mutilés étaient exposés autour. Et parfois, les hommes étaient empalés vivants, etc., etc. Quoi. Sympa. Voilà, c'est là où ils devaient aller. Hein. C'est ce qu'ils risquaient, en fait. Donc ça ne donne pas vraiment envie d'y aller. Et certainement qu'ils connaissaient aussi cette cruauté des Ninivites. La peur, ça c'est quelque chose qui peut nous freiner quand Dieu nous envoie en mission. La propre justice, ça c'est peut-être le meilleur argument. Quand on regarde dans Jonas 4, verset 2, alors on est un peu à la fin de l'histoire, mais on comprend un peu mieux ce qui ne motivait pas Jonas. Hein, il dit, il implora l'Éternel, dit « Ah, Éternel, ne t'avais-je pas, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant en Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. » Parce que les Ninivites allaient se repentir. Hein. Et là, ils découvrent, en fait, la motivation de Dieu, c'est la compassion. Mais lui n'avait pas cette compassion pour ces gens mauvais, pécheurs, etc. Hein. Et donc, il avait une propre justice. Il ne se fiait pas à la justice de Dieu, mais à sa propre justice. Comment Dieu peut gracier des gens aussi cruels ? Hein, des fois, on se pose la question nous-mêmes en tant qu'hommes. Hein. Comment Dieu peut gracier un meurtrier ? Et Dieu le fait dans certains cas. Alors notre propre justice va réagir en disant « Non, il mérite la mort. Il mérite ça ou ça. Je vais être un peu même un pédophile. Est-ce que Dieu peut pardonner Hitler ?» Oui, Dieu peut pardonner tout le monde, à condition évidemment qu'on se repente. Mais dans notre cœur, il y a notre propre justice qui est là. Et souvent, notre propre justice n'est pas la justice de Dieu. quand quelqu'un se repent réellement devant Dieu, il le pardonne. Le brigand, il a dû faire des choses atroces hein, sur la croix. Et Dieu lui a pardonné. Il a payé, certes, sur la croix, mais il lui a pardonné. Mais la justice de Jonas, là, est carrément contraire à celle de Dieu. Et souvent, on dit « Ah, mais Dieu pense comme ça », mais en fait, Dieu ne pense pas forcément comme moi, je pense, dans certaines circonstances. Parce qu'il a beaucoup plus de compassion que moi, j'en ai, pour celui qui pêche, pour l'homme qui est contraire à la volonté de Dieu, bien souvent. L'homme juge l'autre, ou plutôt, on va dire, un pécheur juge un autre pécheur. Hein, c'est comme ça qu'on est souvent. On croit savoir, on est capable de juger l'autre, mais si Dieu devait juste faire un verdict sur moi à ce moment-là, il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire. Et on aurait plutôt honte. Mais voilà, Jonas a agi comme cela, c'est pour nous servir aussi d'exemple. Hein. Et peut-être aussi à cause de son orgueil. Là, il faut rentrer dans le contexte de la vie de Jonas. Hein. Vous savez, un juif, ça ne parle pas de salut aux païens. Je suis juif. Et surtout, je ne parle pas de salut à un païen. C'est pas possible pour eux. Plus tard, dans les actes, pour ceux qui ont lu Actes, vous savez que Pierre va avoir une vision avant de rencontrer Corneille, qui est païen. Hein, Pierre était juif et Corneille était le premier païen, on va dire, qui va se convertir. Mais Pierre a dû avoir une vision pour comprendre que le salut maintenant allait aussi vers les païens et que c'était possible. Mais il a dû préparer Pierre, parce que dans leur tradition, dans leur mentalité, le salut c'est pour les juifs, pas pour personne d'autre. Hein. Là, c'est la même chose. Il réagit de la même manière que Pierre. Non, je ne vais pas aller voir des païens pour leur parler de salut. Ça ne va pas. Moi, je suis juif. Donc, il y a beaucoup d'orgueil là-dedans. Hein. Mais quand on regarde un peu cet orgueil, il a quand même fait beaucoup d'exploits. Hein. D'abord, il va... Alors, juste pour présenter où était Ninive hein, sur la carte. Mais il va d'abord partir à Jaffo. Donc, il faut imaginer ça à pied quand même. C'est 55 km, si je me souviens bien, environ, ouais. 55 km à pied, et puis ensuite, il va partir jusqu'à Tarsis. En fait, il devait aller là, mais il est allé jusque là-bas. À cause de l'orgueil, à cause de la peur, à cause de je ne sais pas à quelle raison. En fait, dans l'orgueil, ça nous fait faire des exploits, mais pas les bons, forcément. Des fois, il faudrait plutôt inverser la force que l'on donne à notre orgueil. Hein. Et en même temps, il exprime là, mais non pas de façon verbale, mais plutôt de façon active, son désaccord avec Dieu. Et il fuit complètement. Alors Tarsi, on pense que c'est plutôt en Espagne. On n'est pas tout à fait sûr, mais bon, il a dû prendre un bateau et il a fait un... Je ne sais pas s'il est arrivé jusque là-bas, mais en tout cas, il a dû traverser la Méditerranée. Il fuit tout simplement Dieu, parce qu'il a peur peut-être, à cause de sa propre justice, ça c'est clair, mais aussi à cause de son orgueil. Il refuse la mission, à cause de lui-même, et de sa façon de juger les autres. C'est terrible quand on y pense. Mais ça, on va le transmettre à nous aujourd'hui, parce que Dieu nous confie aussi des missions, ou une mission, on pourrait dire. Hein. Tous les chrétiens sont appelés à servir Dieu. Tous les chrétiens, grands, petits, moyens, c'est pas blond, blond, tous les chrétiens. D'abord, la Bible nous dit, on l'a vu tout à l'heure, qu'on doit annoncer la bonne nouvelle, appeler le pécheur à se repentir. Tous les pécheurs, pas celui qui me plaît, pas celui avec qui j'ai des affinités, etc. Quel qu'il soit, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle à ces personnes. Et puis par notre service, par notre don dans l'Église. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Il a préparé quelque chose pour chacun d'entre nous. C'est complètement différent. Il y a peut-être quelqu'un qui va aller en Corée du Nord un jour. Je ne sais pas qui, mais on ne sait jamais. Mais tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Mais on a chacun notre mission de la part de Dieu. Alors bien souvent, les chrétiens eux-mêmes fuient leur mission. Mais là, on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas fait un livre sur nous. Hein. Bien souvent, on fuit notre mission hein, parce qu'on a aussi peur. Les non-croyants qui se moquent tout le temps de nous, fatigant à force. Hein. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on est un peu exclu, on est différent. Puis on s'isole aussi parfois, au point de sentir vraiment différent des autres. Et puis, bon, ben, ça nous décourage et ben, j'ai plus envie de parler de Dieu parce que, ben, de toute façon, ils vont rigoler. Hein. Et pareil que Jonas. Hein. Notre propre justice, hein. Comment Dieu peut annoncer... la bonne nouvelle ou le salut à mon collègue de travail qui n'arrête pas de me saouler, qui est méchant, qui est cruel et qui va faire que je sois viré. Dieu veut qu'on annonce quand même l'évangile. Pas évident, hein, qu'on y pense. Et encore, ça c'est pas grand-chose par rapport à Jonas. Mais notre propre justice est en action tous les jours, il ne faut pas croire. Et il faut prendre le temps de se reprendre soi-même avant de juger l'autre et de définir est-ce que lui a le droit d'entendre ou pas la bonne nouvelle. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire bien souvent. Hein. Lui, il a le droit. Je t'ai élu. Hein, tu es élu de ma part pour pouvoir être sauvé. C'est ça qu'on fait des fois. Et alors peut-être on va voir un clochard ou un gothique, hein. Je ne peux pas en parler puisque j'étais comme ça avant, mais il ne mérite pas le salut, lui. Donc on ne va pas parler de salut. Et on est comme ça. On a aussi notre propre justice, mais Dieu n'agit pas comme ça. Et puis notre orgueil, hein, est-ce qu'on est prêt à fuir loin de ma famille, comme j'ai dit tout à l'heure en exemple, de tout quitter pour être au service de Dieu, hein. Regardez votre maison, vous dites, tu es prêt à tout quitter pour Dieu, à le servir? On devrait, hein, normalement. On devrait, mais on s'attache très vite à beaucoup de choses. Mais peut-être que Dieu, à un moment, moi, il m'a demandé de quitter le sud, hein, le beau soleil, la plage, les grillons, non, les cigales, pour venir à Étréchy où il pleut tout le temps. D'ailleurs, de plus en plus. Pourquoi, je sais pas. Bon, ben, j'ai écouté, hein. Bon, si j'avais su, je suis peut-être pas. Non, c'est pas. Mais bon, avant, on était à Thionville, c'était encore pire, donc. Mais notre orgueil est aussi en action. Quand Dieu veut nous faire travailler, notre orgueil, notre peur, notre propre justice est là et se met à bloquer tout simplement Dieu dans l'élan qu'il veut nous donner dans notre service. Alors le nom égoïste de Jonas, hein, a empêché en fait au départ l'annonce de ce jugement sur Ninive. Je ne sais pas si on y réfléchit. Si Dieu n'avait rien fait, Jonas serait parti, Ninive n'aurait pas été prévenue et Dieu aurait détruit Ninive, tout simplement. C'est injuste à mourir quand on y réfléchit. Parce que quand on sait la réaction qu'ils vont avoir, ils vont se repentir. Mais parce que Monsieur Jonas ne voulait pas y aller à cause de son orgueil, etc., toute une ville aurait été détruite. C'est valable pour moi aujourd'hui. Hein. Peut-être des fois je n'ose pas ou je ne veux pas obéir à Dieu et quelqu'un va subir quelque chose. Alors, je ne veux pas nous culpabiliser parce que Dieu sait rattraper les choses. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à ça. Moi, j'empêche peut-être parfois la bonne nouvelle d'être annoncée là où elle mérite d'être annoncée. C'est à réfléchir. Donc, le nom égoïste de Jonas empêche l'annonce du jugement et de la repentance de Ninive. Et moi, j'aimerais qu'on dise oui comme des serviteurs obéissants qui annoncent la bonne nouvelle, mais sans préjuger, sans distinguer l'un de l'autre. Chacun mérite d'entendre la parole de Dieu et d'avoir une chance de pouvoir se repentir. Franchement, moi, j'aurais pas pensé au début du texte que les Ninivites allaient se repentir. Hein. Peuple cruel, sanguinaire, etc. Ces gens-là vont se repentir devant Dieu. C'est pas croyable quand on y réfléchit. Et souvent, on regarde l'autre en se disant il n'arrivera jamais à se repentir. Et peut-être qu'on se trompe. Hein. Quand on m'avait vu comme gothique hein, pendant des années et des années, les gens ne se disaient pas que lui, un jour, il va se convertir. Hein. Au contraire, c'est carrément l'inverse hein, dans la famille. Hein. Et maintenant, je suis pasteur. Et il regarde autrement les choses. Hein. Non, le plan de Dieu. Troisième chose qu'on va voir dans le texte, non à la repentance et à ses conséquences aussi. Hein. Il y a un bras de fer là qui commence à se faire entre Jonas et Dieu. Et alors Jonas a répondu de façon non verbale. Il n'a pas dit non à Dieu, mais il a fui. Hein. Il a montré visuellement son désaccord avec Dieu. Et bien Dieu fait pareil. Il dit rien. Jonas a fui. Dieu lui dit pas, c'est pas bien, t'es pas gentil, etc. Il lui dit rien, rien du tout. Réponse non verbale. Il agit tout simplement comme Jonas. On pense souvent que Dieu n'agit pas parce qu'il est silencieux, parce qu'il se passe rien. Pourquoi je n'ai pas de travail en ce moment hein. Je me parle moi, là, parce qu'en ce moment, ça bute. Pourquoi? Mais Dieu est en train d'agir, mais il est silencieux. Peut-être qu'il veut m'apprendre des choses, ou nous apprendre des choses. Mais Jonas devait se dire, peut-être Dieu ne fait pas attention à sa fuite, mais Dieu le voyait. Il répond comme il est en train d'agir, se tait. Les silences de Dieu, hein, c'est parfois des réponses de Dieu aussi, dans notre vie. Et souvent, peut-être à notre obstination. Si je veux vraiment pas le servir, à un moment, ok, tu veux pas servir, écoute, c'est ton problème. Hein. On va attendre que tu sois prêt, ou alors je vais trouver une combine pour que tu sois prêt un jour. Mais des fois, Dieu reste silencieux. Et il est là, il est attentif, il est en pleine action. Mais c'est une action invisible pour l'instant pour moi. Alors, on peut penser que le voyage de Jonas, hein, on a vu tout à l'heure jusqu'à Tarsis, ça va laisser un petit temps aussi de réflexion à Jonas pour réfléchir. Hein. Dieu laisse là peut-être un sursis à Jonas, comme il est en train de le faire pour Ninive. Hein. Il aurait pu venir à Ninive en disant, voilà, votre méchanceté est si grande, je vous détruis, un point c'est tout. Mais il laisse un sursis, un avertissement, qu'ils vont avoir plus tard, un temps de grâce hein, de la part de Dieu. Et pour chacun d'entre nous, Dieu prend son temps. Dans le service, peut-être dans la conversion aussi, si on est encore converti, mais il prend ce sursis, on pourrait dire, ce temps de grâce où Dieu nous laisse réfléchir. Hein. Et c'est formidable que Dieu agit comme ça. Est-ce qu'on fait comme ça, nous, avec les autres hein? Fais tout de suite ce que je te demande, tu vas voir. On est comme ça, hélas. Mais Dieu laisse le temps à Jonas de réfléchir. Et aujourd'hui, Si on est encore pécheur, si on n'est pas converti, Dieu laisse aussi un temps de grâce pour qu'on écoute la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qu'on découvre qu'on est pécheur et qu'on a besoin justement d'être sauvé. Et il nous laisse ce temps de grâce aujourd'hui. Et peu de gens y accordent intérêt, mais bon, à nous de l'annoncer aussi autour de nous. Mais à un moment, quand ce sursis, ce temps de grâce sera fini, Dieu va sévir dans ce monde et il va juger. Et ça sera trop tard, comme pour Ninive. Dieu nous laisse aussi en tant que chrétiens un sursis, bien souvent, dans notre activité pour lui, dans notre service pour lui. Et beaucoup de chrétiens attendent des années peut-être, avant de se dire que j'ai quelque chose à faire dans mon église ou dans le travail de Dieu, et pensent que bon, c'est pas trop grave devant Dieu. Si vous êtes là le mardi soir, vous savez que le chrétien ne sera pas jugé pour aller en enfer, mais il passera quand même devant le tribunal de Christ, où ce qu'on a fait de bien et de mal sera évalué devant le Seigneur. Et donc le Seigneur m'a permis d'être sauvé. Je pense que la moindre des reconnaissances, c'est de se mettre au travail pour lui. Alors, selon le don que lui, il a donné, mais à un moment, je serai aussi évalué. Il va dire, mais voilà, je t'ai donné ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu en as fait ? Alors moi, je ne sais pas comment ça se passera le tribunal de Christ. On ne perd pas le salut, mais il y a des récompenses. Je ne sais pas ce que c'est que ces récompenses, mais c'est quand même à réfléchir. C'est formidable que Dieu veut nous récompenser quand même, parce qu'on ne mérite absolument rien à la base. Mais Dieu veut quand même nous récompenser. Donc Dieu laisse un temps dans notre vie, qu'on soit pécheur ou qu'on soit chrétien, mais laisse un temps pour que nous mettions à lui obéir, tout simplement. Mais la patience de Dieu aussi a ses limites. On le voit dans le livre de Jonas. Patience de Dieu à l'égard de l'homme. Dieu est patient. Il veut conduire à la repentance. On peut lire dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 et le verset 15. De Pierre, chapitre 3, verset 9. On va lire le verset 15 aussi. Quelqu'un veut le lire, peut-être ?
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Le verset 15.
Croyez de la patience de notre Seigneur et votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée.
Dieu use de patience à l'encontre du pécheur aujourd'hui, mais Dieu aussi a ses limites. Par rapport à Jonas, on pourrait dire, heureusement que Dieu a aussi une limite pour aider l'homme quelque part. Parce que si Dieu faisait que patienter, finalement, l'homme s'enfonçait de plus en plus dans son péché. À un moment, Dieu arrête l'homme. Il a une patience, mais heureusement qu'il y a une limite. Et c'est bon pour nous, finalement, que Dieu ait une limite. Et pareil pour Jonas, Dieu a laissé le temps de faire sa petite traversée tranquille ou de réfléchir, mais à un moment, cette patience s'arrête et est limitée pour Jonas. Aujourd'hui, Dieu est patient à l'encontre du pécheur. Il est prêt à attendre longtemps. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand nous partons. Dieu est patient, mais c'est aussi quand nous risquons de mourir. Et ça peut arriver n'importe quand. Donc il ne faut pas se dire j'ai tout mon temps pour peut-être réfléchir à ces jeux de l'éternité. Ça peut arriver demain, hélas. Donc oui, Dieu est patient, mais il dit c'est aujourd'hui le salut. C'est aujourd'hui qu'il faut réfléchir, c'est pas demain. À vous de réfléchir si vous ne connaissez pas encore le Seigneur. Dieu est patient aussi à l'encontre du chrétien, mais si vous avez un peu d'expérience de vie chrétienne, il ne faut pas non plus jouer avec Dieu. Oui, Dieu est patient dans ma vie, donc tranquille, je vais avancer dans ma vie chrétienne, dans ma sanctification, tout doucement. Des fois, Dieu fait des croche-pattes, envoie des tempêtes, peut-être comme Jonas, des épreuves pour que justement on aille un petit peu plus vite que ce qu'on voudrait bien. Vous allez vite, vous, dans votre vie chrétienne, vous êtes à fond. Vous aimez quand Dieu vous reprend, il faut changer ça, etc. Vu vos têtes, c'est non. Mais il ne faut pas jouer avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Il ne faut pas se dire que oui, il est tellement plein d'amour, de patience. Oui, il l'est. Mais à un moment, il a sa limite aussi. Et juste en regardant à la croix, excusez-moi, mais ça mérite qu'on se bouge un petit peu quand même. Il a tout fait pour moi. Il a donné sa vie. Ça mérite vraiment qu'on se mette au travail. Alors la patience de Dieu a sa limite. Et puis il envoie une tempête pour raisonner Jonas. Le problème, c'est que là-dedans, en raisonnant Jonas, les marins, ils vont aussi subir tout cela à cause de Jonas. C'est pas sympa de sa part, quelque part, si on y réfléchit. Alors, Mais attention, il ne faut pas non plus faire de toutes les circonstances une punition de Dieu. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu a agi de cette manière avec Jonas que s'il y a une tempête ou s'il y a, comme en ce moment, beaucoup de pluie, Dieu est en train de vous punir. Attention, hein, il faut être prudent avec ça non plus. Jonas savait pourquoi il y avait ça et il le reconnaîtra. Mais ce n'est pas parce qu'il vous arrive des choses dans votre vie que c'est forcément une punition de Dieu. Hein. Un enfant qui décède ou je ne sais pas, des choses graves qui peuvent arriver dans notre vie. J'ai déjà entendu de ces âneries. Quelqu'un avait perdu son fils et on est venu leur dire « Mais vous péchez, c'est pour ça. » Mais la famille était détruite quand elle a entendu ça. Dans un deuil. Comment on peut être capable de dire ça? Qui suis-je? Ma propre justice, voilà, tout simplement. Enfin, s'il avait été devant moi, je l'aurais corrigé sévèrement, mais bon. Alors, il y a peut-être des circonstances où c'est Dieu qui est en train de nous reprendre aussi. Mais je crois que ça sera assez clair dans notre tête. Ce n'est pas la même chose pour chacun. Dieu sait agir à sa manière pour que nous puissions comprendre que, bah, des fois, il est en désaccord avec nous-mêmes. Mais cette tempête, elle est là pour Jonas uniquement. Il ne faut pas en faire un principe global. Il y a des épreuves dans notre vie, c'est vrai. Il nous arrive des choses, le chômage, les difficultés. Il y a des épreuves dans notre vie, la maladie. Mais il y a aussi les épreuves que nous nous infligeons. Si, par exemple, je m'achète la super Lamborghini alors que je gagne qu'un SMIC tous les mois... Vous imaginez la dette colossale que je vais avoir pendant des milliers d'années, là. Hein, parce que je crois qu'il faudra des milliers d'années pour rembourser. Si je fais les bêtises volontairement en sachant que Dieu ne le veut pas, forcément, ça va impliquer une épreuve dans ma vie. Il y a celles que Dieu les envoie parfois pour nous tester, mais il y a celles que je m'inflige à moi-même. Il faut bien les distinguer. Hein. Et là, Jonas est en train de se l'infliger à lui-même, à cause de sa désobéissance. Donc, le nom de Jonas refuse tout simplement le sursis de Dieu, mais quelque part, le sursis de Dieu à l'égard des Ninivites, mais va en subir les conséquences. Hein. Par contre, le oui, ce que j'aimerais que nous ayons, accepte les temps de grâce de Dieu, et en même temps, accepte d'être repris parfois par Dieu pour être changé, tout simplement. On peut dire non à Dieu bien souvent dans notre vie, s'obstiner, mais on peut se repentir aussi à un moment. Et Dieu ne va pas nous condamner, au contraire. Quelqu'un qui demande pardon à Dieu, qu'est-ce qu'il est heureux, il est heureux en fait, et vous accueille tout simplement. Parfois, il faut se laisser réprimander par Dieu, mais ça produit une bonne tristesse, hein, à salut. Et puis une quatrième chose qu'on voit dans ce texte de Jonas, c'est Jonas qui ne veut pas du tout changer d'attitude. Et têtu quand même, hein, quand on y réfléchit. On n'est pas comme ça, nous. Jamais. Il est obstiné. Et il devient même un peu passif et arrogant, hein, puisque au moment où la tempête commence à se déclarer, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il descend et il va se coucher. Alors, comparez pas ça à Jésus qui dormait pendant la tempête, hein, c'est pas la même chose. Mais Jonas va dormir pendant la tempête, il s'endort au fond du navire, il est peut-être fatigué après avoir fait ses 55 km à pied, c'est possible, hein, ou alors il commence à devenir carrément dépressif. C'est possible aussi, hein, c'est position. Mais quelque part, il y a une forme d'arrogance. Ah, tu m'envoies la tempête? Ben regarde, moi je dors. Même pas peur. Tu es Dieu, je te connais, mais je n'ai pas peur de toi. On est comme ça aussi, hein, il ne faut pas croire. Mais là, il diminue carrément la personne de Dieu. Et ça, c'est grave quand même, aux yeux de Dieu. Heureusement que Dieu est patient. Puis les mariniers vont réagir, hein, et eux, ben, ils sont intelligents, ils veulent vivre, hein, ils invoquent leur Dieu. Bon. Évidemment, des faux dieux, ils délestent le bateau pour qu'ils puissent mieux naviguer, mais ils disent, moi, je veux vivre, il y a une tempête, mais je ne veux pas mourir. Alors que Jonas, lui, voilà, tranquille. Donc il y a deux réactions, sa réaction n'est pas normale par rapport à ses mariniers. Hein. Et même le pilote est étonné, mais pourquoi tu n'invoques pas ton dieu, là? Qu'est-ce que tu fais? Si c'est un païen qui est en train de lui dire ça, qu'est-ce que tu fais, là? Et c'était une bonne occasion de témoignage pour Jonas. Parce que vous vous souvenez, Paul aussi, à la fin de son ministère, et je crois que c'est en allant à Rome, il y a une grosse tempête, et bah, lui, il va justement invoquer Dieu, et il va dire aux gens, croyez en Dieu, et il va nous sortir de là. Jonas, lui, fait carrément le contraire. Vraiment, mauvais témoignage. Finalement, Jonas s'est découvert comme coupable, mais il ne va pas changer d'attitude. Alors d'abord, on recherche ses coupables, alors ils vont tirer au sort. Là aussi, c'est propre au texte. Si vous avez des difficultés, commencez pas forcément à tirer au sort pour savoir si c'est ça ou ça. Je m'achète la BMW ou je m'achète la R5. C'est un peu de la R5, donc tout de suite. Mais voilà, c'est propre au texte. Hein, il ne faut pas en faire un principe général, parce qu'il y en a qui le font, hélas. Et pourquoi chercher un coupable dans la tempête? Je veux dire, lui qui était marinier autrefois, il connaît les tempêtes, hein, François. Et je pensais à toi d'ailleurs, justement. Mais s'il cherche un coupable à ce moment-là, c'est peut-être parce que la tempête n'était pas comme d'habitude, ou plus forte, ou quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Et c'est peut-être pour ça que les mariniers s'inquiétaient pleinement. Il y a des tempêtes quand même sévères, mais si eux commencent à s'inquiéter, je pense qu'ils avaient quand même du bagage, hein, c'est qu'elle était complètement différente. Et c'est pour ça qu'ils devaient chercher un coupable. Il y avait une raison, en tout cas. Et donc, ils vont tirer au sort, et il semblerait que Dieu dirige ce tirage vers Jonas et déclare Jonas comme étant le coupable, et coupable de cette tempête. Et une fois le coupable trouvé, hein, quelque part, ben, Dieu est en train de se servir des païens pour reprendre un croyant. C'est quand même triste quand on y réfléchit. Et ça va nous arriver dans notre vie. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, va me reprendre que je sois un bon chrétien. Et vous, hein? Merci Seigneur quand même. Mais là, ça calme notre orgueil. Hein. Là, ça nous rend humbles quand Dieu agit de cette manière-là. Mais il le fait. S'il est obligé, il le fera. Et donc, Jonas va avouer enfin sa nationalité, sa crainte de Dieu. C'est intéressant quand il dit ça. Je crains Dieu. Il est en train de le fuir. Ça, et puis, il avoue aussi sa fuite. Hein, mais son témoignage face à ces gens-là est carrément contraire à ce que veut Dieu. Il dit « Je crains Dieu ». Et en même temps, il leur avoue que je suis en train de fuir et désobéir à Dieu. Un Dieu, t'es sûr? Et des fois, nous, on dit oui, on croit en Dieu, et puis les gens nous regardent et disent mais il agit pas comme un croyant, ou il fait comme le monde, tout simplement. Hein. Alors, on peut craindre Dieu, hein, mais on n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'on lui obéit forcément. Dans Jacques, hein, les démons craignent Dieu, mais ils ne lui obéissent pas du tout, loin de là. Donc, on peut craindre Dieu, on peut connaître Dieu, on peut vouloir vivre selon Dieu, mais on n'obéit pas forcément à ce qu'il nous demande. Et Jonas, alors là, il aurait pu dire, bon, ça y est, maintenant, je suis découvert, je suis coupable, allez, hein, bon, je demande pardon à Dieu, et puis je rentre, et puis on va aller à Ninive. Ben non, il va préférer la mort à la repentance, tout simplement. Il était grave, quand même, hein, quand il réfléchit. Mais on est des fois comme ça, hélas. Hein. Que faire à Jonas, hein, puisque c'est les mariniers qui vont demander, pour que la tempête s'arrête? Ben, Jonas propose d'être jeté par-dessus bord. Enfin, imaginez la tempête, soit il bluffe, on peut imaginer, soit il était carrément suicidaire. Hein. Parce que là, imaginez de revenir du milieu de la Méditerranée à la nage jusqu'à Gaziantep, j'ai du mal à y croire. Hein. Donc soit il bluffait, soit il était suicidaire, il voulait tout simplement mourir, il le dira plus tard d'ailleurs. Mais les mariniers vont hésiter à le faire dans un premier temps, parce que bon, il y a plusieurs hypothèses, j'en ai deux là éventuellement. Peut-être parce qu'ils avaient, eux, il faut se mettre dans le contexte, hein, une notion d'esclave fugitif. Alors ils pensaient peut-être que c'était un esclave qui avait fui. Et la loi chez les païens exigeait qu'un serviteur doive être rendu à son maître. Donc s'ils le tuaient, ils désobéissaient à la loi et ils risquaient, eux, quelque chose de grave. Deuxième théorie, c'est peut-être qu'ils avaient tout simplement peur d'attenter à la vie de Jonas. Ils étaient respectueux de la vie. On ne saura jamais, mais bon, en tout cas, ils ont un moment de flottement. Mais des fois, dans notre vie, on a la solution et on n'agit pas. Alors, c'est vrai que pour eux, c'était un peu difficile, mais parfois, Dieu nous donne la solution, mais on ne veut pas l'appliquer. Hein? Dieu nous dit clairement les choses, peut-être au travers d'une lecture, au travers peut-être d'un témoignage, parce que des fois, on peut parler à quelqu'un sans savoir même son problème et répondre, merci Seigneur. Hein? Des fois, on a la solution, mais on refuse de l'appliquer, un peu comme ces mariniers au début. Finalement, ils vont jeter Jonas dans la mer, et cette mer, enfin, va se calmer. Et là, je vois Dieu qui est en train d'évangéliser par lui-même. Puisqu'une fois que la mer va se calmer, qu'est-ce qu'on voit? Ces mariniers vont commencer à reconnaître que c'est Dieu. Le prophète n'a pas voulu faire son travail d'évangélisation, entre guillemets, mais Dieu évangélise par lui-même. Alors, quand on y réfléchit, on se dit quand même, Dieu pourrait faire tout seul. Il pourrait aller distribuer les traités lui-même, enfin, il le ferait d'une autre manière. Il pourrait aller toucher les cœurs de tout le monde, mais il désire nous inclure dans ce travail d'évangélisation, d'annoncer la bonne nouvelle. Mais quand nous ne le faisons pas, alors c'est triste, mais Dieu continue à faire son travail. Oui, hein, il a un plan et il a une mission. Mais si j'arrive à m'arrêter un moment et me dire « Dieu a un plan, il continue et voulait me faire participer », c'est quand même triste, quelque part, de dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» La mer se calme, Dieu évangélise par lui-même, et les hommes furent saisis d'une grande crainte de Dieu, pas à cause de Jonas, mais parce que Dieu avait arrêté la tempête à ce moment-là. Quel beau témoignage. Alors, on ne sait pas si on convertit après, hein. C'est rien d'eux, mais en tout cas, ils ont eu une crainte à un moment de Dieu réel et sincère, puisqu'ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des vœux. Dieu a été obligé de travailler par lui-même, parce que son serviteur ne voulait rien faire, ou les fuir, tout simplement. Le non-obstiné de Jonas, c'est vraiment un mauvais témoignage. Alors, je ne suis pas en train de le juger, on est bien d'accord, parce qu'on est exactement pareil des fois, mais son mauvais témoignage et l'obstination l'a conduit à désirer la mort. C'est grave, quand même. Hein? Si un jour vous voulez mourir, posez-vous la question si vous n'êtes pas en train de vous obstiner avec Dieu, là, ou s'il n'y a pas une petite bataille. Hein? En tout cas, je vous en parlerai avant. Mais on arrive à ce point-là de vouloir la mort plutôt que d'obéir à Dieu. C'est grave, c'est triste. Alors nous, on ne veut peut-être pas la mort des fois, mais on est capable d'accepter certaines choses dans notre vie pour désobéir à Dieu. On est prêt, parce qu'on a un tel orgueil dans notre cœur, et, ou parce qu'on a peur, ou je ne sais pas quoi, mais souvent c'est plutôt l'orgueil qui est là et qui ne veut pas fléchir le genou devant Dieu. Mais jusqu'à la mort, c'est psychologiquement, hein, il avait un problème là, hein, je crois. Bon, Élie aussi à un moment voudra mourir, parce que face à des circonstances, on n'est pas à leur place non plus, je peux le comprendre, mais si on en arrive là, c'est quand même grave. Plutôt que d'avoir un non obstiné comme Jonas, ben, plutôt disons oui à nos erreurs. Hein. Oui, c'est vrai, je me mets pas à travailler comme tu le voudrais, dans ton église, ou au service que tu veux, parce que c'est pas qu'à dans l'église, c'est partout que le Seigneur veut se servir de nous. Et plutôt que de dire non et de s'obstiner, ben, tout l'effort qu'on met dans l'obstination, si on l'arrêtait là et on le mettait dans le oui. Et vous verrez la différence. C'est la même force, seulement il faut l'impliquer dans autre chose. Hein. Et si on l'injecte dans le oui, dans le désir de se repentir, d'accepter mes erreurs, d'accepter le pardon de Dieu, eh bien, il y a une énergie qui va être là. Et ça sera dans le oui. Hein. Et là, j'aurai envie tout simplement de servir le Seigneur. Moi, je crois que c'est le même effort que de s'obstiner, que de déprimer. L'effort, il est là. Hein. C'est un effort de déprimer. Hein. Il faut vraiment se forcer pour déprimer. Hein. Eh oui. Parce que Dieu, on l'a entendu tout à l'heure, veut notre paix. Donc celui qui déprime, c'est qui refuse obstinément la paix de Dieu qu'il veut mettre dans mon cœur. Ah oui, je veux quand même m'inquiéter. Je m'inquiète parce que moi, je sais comment il faut faire. Hein, je connais les plans de Dieu. Moi, je sais tout. Je vais lui dire même comment il faut faire. Et comme ça, des vents, quand on prie. Hein. Seigneur, comme ça. Je le fais, hein, donc je parle par expérience. Et je me reprends. Mais disons oui à nos erreurs et acceptons tout simplement le pardon de Dieu. Et tous les efforts, on va le mettre plutôt dans l'aspect positif et obéir à Dieu. Pour terminer, alors j'ai entendu non de la part de Jonas, mais moi je vais dire oui. C'est mieux, non ? C'est mieux, non ? C'est mieux, oui. Dites oui. Dis oui. Hein. Dieu nous a confié un travail et une mission, pas forcément tout le temps, mais ça viendra peut-être à un moment. Qui sait, parmi nos jeunes, là, il y a peut-être un pasteur. Ça, c'est Dieu qui décidera. Hein. Je ne savais pas que je le serais un jour, donc ça peut arriver. Ou un missionnaire, ben quelqu'un qui va vraiment partir. Ben, j'ai vu tout à l'heure que tu désignais ton mari pour la Corée du Nord, c'est là ? T'es prêt ? Non, on parlera après. Hein. Mais voilà, le Seigneur a quelque chose pour chacun d'entre nous. C'est complètement différent, on n'a pas le même travail, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on dit oui ou est-ce qu'on dit non ? Est-ce qu'on s'obstine ou on est heureux de servir le Seigneur ? Dieu va nous briser hein, si on s'obstine. C'est sûr, ça prendra son temps peut-être. Mais à un moment, la patience de Dieu cessera et nous brisera. Et ça peut être très sévère. Ça arrive dans beaucoup de cas où Dieu doit nous arrêter pour nous réveiller, pour nous mettre en marche, pour se mettre à le servir. Alors, avant d'arriver là, il y a ce temps de grâce. Prenez le temps d'y réfléchir et ben, profitez justement de ce temps de grâce. Parce que quand Dieu punit, il punit sévèrement et réellement. Et on le voit bien avec Jonas, hein, il n'a pas rigolé avec lui. Et puis, dans son amour, Dieu va utiliser toutes les circonstances aussi pour nous ramener au port. Autant il y a peut-être ce côté, oui, c'est Dieu a une patience pour nous, mais ce qui est formidable, c'est qu'au bout, il fera tout pour nous ramener à bon port. C'est merveilleux. Là où on s'obstine, là où nous, ben, on dit à Dieu, non, lui nous aime encore. Il pourrait dire, j'en ai marre d'Emmanuel. Chaque fois, il dit non. Maintenant, stop. Non, chaque fois, il prévoit un moyen pour nous ramener à bon port. Et pour que je remette le pied à l'étrier et que je me mette à retravailler avec lui. C'est pas de l'amour, ça hein? Nos enfants, des fois, hein? J'en ai pas, mais j'imagine, je vois. Mais dans l'amour d'un père, c'est tout de les ramener aussi. Ou d'une maman, c'est de les ramener. Dieu fait exactement la même chose avec nous. Des fois, ça passera par des épreuves difficiles, mais ce qu'il veut, c'est tout simplement me mettre à son service à nouveau. Et c'est formidable quand on y réfléchit profondément. Et pour terminer, Dieu aime les pires des hommes. Le pire. le pire de vos collègues, le pire de vos ennemis. Il aime même le dictateur en Corée. Il l'aime. Après, son amour est là, c'est à lui d'en disposer, évidemment. Il aime Daesh, il aime toutes ces personnes qui sont là. Mais évidemment, il faut se repentir. Mais il faut d'abord nous le comprendre, ça, que Dieu aime tout le monde. Et là où notre propre justice va se mettre en place, rappelons-nous que Dieu a compassion pour eux. Alors, ils ne vont peut-être pas se convertir, ils ne vont peut-être pas se repentir, et ils auront leur jugement, c'est clair. Mais moi, je n'ai pas le droit déjà de les juger avant que Dieu va les juger. Ça, je n'ai pas le droit de le faire. Quand quelqu'un me demande, tu penses qu'il est sauvé ? Je dis, qu'est-ce que j'en sais, moi ? J'en sais rien. Peut-être Hitler est sauvé, je dis peut-être n'importe quoi, mais qui sait ce qui s'est passé au dernier moment ? Ce qui paraît, c'est suicidé, mais qui sait ? C'est bizarre de le voir là-haut. Hein. Mais notre propre justice est là. Hein. Ah, ça nous énerve, ça. Hein. Mais Dieu aime le pire des hommes, et le problème de Jonas, c'est peut-être des fois c'est notre problème, on n'a pas compris que Dieu a plein de compassion pour chacun d'entre nous. À nous, et on l'avait entendu la semaine dernière, de ne pas juger mon prochain, hein, sur les apparences, sur ce qu'il est en train de faire, mais de se souvenir que Dieu a d'abord compassion pour cette personne. Et s'il y a un jugement qui doit avoir lieu, c'est entre lui et Dieu, c'est pas à moi de le faire. Que le Seigneur nous aide à d'abord à réfléchir à cette première partie un peu négative de la vie de Jonas, hein, et ça ne va pas être meilleur après, mais bon, hein, mais que ça nous fasse réfléchir dans notre manière de répondre à Dieu. Est-ce que je dis non ou est-ce que je dis oui ? On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est là pour nous servir d'exemple, et c'est toujours si riche, si merveilleux de la lire pour d'abord découvrir la vie d'autres serviteurs de Dieu qui sont là aussi, pas forcément comme un exemple, mais qui nous parlent. Qui nous montre ce que tu attends de nous, qui nous montre aussi comment tu agis à l'encontre de celui qui désobéit, Seigneur. Et nous voulons te remercier d'abord de vouloir nous mettre à ton service. Tu aurais pu agir sans nous, mais tu veux vraiment nous faire partager cela avec toi. Mais en même temps, merci parce que là où bien souvent nous traînons les pieds, tu as ta manière, tes clins d'œil et peut-être même parfois des épreuves pour nous mettre dans le bon chemin. Ça ne nous fait pas toujours plaisir, mais c'est l'expression de ton amour, Seigneur. C'est l'expression de ta compassion à notre égard. Et nous voulons t'en être reconnaissants ce matin. Seigneur, tu connais nos pires ennemis, nos pires collègues, tous ces gens que nous regardons avec un mauvais œil. Nous l'avons dit, tu les aimes. Apprends-nous aussi à les aimer en regardant comme toi à cette possibilité qu'un jour ils se repentent et qu'ils t'acceptent. Et pourquoi pas, intègre tout simplement cette Église. Apprends-nous à changer notre regard, Seigneur, à éloigner les préjugés, notre propre justice et simplement à aimer notre prochain comme toi tu l'aimes. Merci pour ce que tu feras encore dans notre vie. Transforme-nous, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.